Nous allons passer maintenant à la conférence de ce soir, consacrée aux religions, à l'athéisme et au matérialisme. Des religions les plus primitives aux religions monothéistes les plus abstraites, toutes sont à l'image des sociétés qui les ont engendrées, celles d'hier comme celles d'aujourd'hui. Ce ne sont pas les dieux qui ont créé les êtres humains, mais bien les êtres humains qui ont créé les dieux. Et les religions ne sont que le reflet imaginaire, dans la conscience des hommes, de leurs angoisses vis-à-vis des puissances qu'ils ne comprennent pas. Pendant des dizaines de milliers d'années, ce sont les puissances de la nature qui se sont imposées aux hommes et ont pris l'apparence, dans leurs esprits, de puissances fantastiques. Aujourd'hui encore, dans les régions les plus pauvres de la planète, les catastrophes naturelles peuvent attiser les préjugés religieux. Par exemple, quand on n'a pas la moindre notion scientifique sur les tremblements de terre, comment résister à l'explication religieuse qui fait passer pour un châtiment divin le séisme de l'an dernier à Haïti? D'autant plus que la vulgarisation de l'explication scientifique a été le cadet des soucis du pouvoir haïtien comme de toute la communauté internationale. Mais si les êtres humains n'avaient à subir que les caprices de la nature, grâce au progrès de la science, la religion aurait dû inéluctablement reculer et même disparaître. Or, d'autres puissances que celles de la nature dominent la vie des hommes, les puissances économiques et sociales. L'histoire de l'humanité a été celle d'une domestication croissante de la nature. Et dans cette histoire, le capitalisme, grâce à l'industrie, a représenté un progrès spectaculaire. Mais, comme dit le manifeste communiste, la société bourgeoise ressemble au magicien qui ne sait plus dominer les puissances infernales qu'il a évoquées. Si les capitalistes ont développé les forces productives, l'anarchie de leur économie en a fait des puissances indomptées. Et les convulsions de cette économie, comme les crises économiques, sont aujourd'hui infiniment plus destructrices que les catastrophes naturelles. Voilà les racines modernes du sentiment religieux. Les religions ont été et sont toujours des faits sociaux qui embrassent des milliards d'êtres humains, à commencer par les centaines de millions de travailleurs de la planète. Et si, en tant que révolutionnaires et en tant que matérialistes, nous devons propager les conceptions matérialistes et athées, nous devons aussi comprendre ce que sont les racines sociales de la religion. Pour cela, nous nous limiterons aux trois grands monothéismes que sont, dans l'ordre chronologique, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Si nous militions en Asie, évidemment, nous devrions obligatoirement parler du bouddhisme et de l'hindouisme. Mais ici, en France, ces religions pèsent moins. Nous voulons expliquer dans quel contexte ces idées religieuses sont apparues et se sont répandues chez les pauvres. Mais aussi comment elles ont été utilisées par les classes possédantes pour dominer. Ou encore, comment les différents courants religieux ont pu être, dans le passé, l'expression idéologique de la lutte entre classes sociales. Mais à partir d'un certain degré de développement des techniques et des sciences, la pensée humaine s'est émancipée des conceptions religieuses. Au milieu du bouillonnement des luttes entre classes sociales au XVIIe et XVIIIe siècle, sont nées les idées matérialistes et athées, idées dont nous avons hérité et dont notre communisme est directement issu. Cette armée de ces conceptions matérialistes que le mouvement ouvrier s'est renforcé. Et nous voulons aussi rappeler comment il s'est comporté vis-à-vis de la religion. Et pour parler de tout cela, je donne la parole à Pierre Royan.
Si on prend le terme de religion au sens très large, parmi les premières conceptions que les hommes ont pu se faire de la nature, il y eut celle qui consistait à donner une conscience propre à des animaux ou même à des objets, ce qu'on appelle parfois l'animisme. Les phénomènes incompris étaient interprétés comme étant la volonté d'un esprit. Encore aujourd'hui, il existe des peuples ayant ce type de croyance. Par exemple, les Aymara, un peuple des Andes, en Amérique du Sud, pense que la montagne est un corps vivant qu'il faut nourrir de sacrifices d'animaux. Pour les pygmées de la forêt Ituri en Afrique, dans la région des Grands Lacs, la forêt est vivante. Elle a une âme et elle veille sur eux. Il y a des dizaines de milliers d'années, des groupes humains inventèrent des croyances de ce type. Face aux phénomènes naturels qui les dominaient, ils ne se sont plus contentés de constater. Ils ont cherché des explications. Ils se sont posé la question du pourquoi des choses. Leur connaissance de la nature, qui leur permettait de survivre au quotidien, ne pouvait à ce niveau que leur suggérer des explications fantastiques. Mais cette volonté de trouver une explication, de comprendre, était en elle-même formidable, et elle ouvrait la voie au développement illimité de la pensée humaine et de ses réalisations. Ces sociétés n'ont pas laissé beaucoup de traces. Elles n'ont pas laissé donc beaucoup de traces de leurs croyances. Ce n'est qu'à partir de la naissance de la civilisation, et surtout en fait à partir de la naissance de l'écriture, qu'on peut avoir des idées plus précises sur ce qu'étaient les religions des hommes. À l'origine de la civilisation, il y a deux grandes découvertes, l'agriculture et l'élevage. On estime que celles-ci apparurent il y a environ 12 000 ans, dans différentes régions du monde, et qu'elles se sont ensuite propagées rapidement. À partir de ce bouleversement, appelé aussi souvent révolution néolithique, les hommes commencèrent à se sédentariser. L'augmentation de la production permit un accroissement de la population. Elle permit aussi d'accumuler pour se mettre à l'abri du besoin. Comme les sociétés de ces premiers agriculteurs et de ces premiers éleveurs se situent historiquement encore avant l'existence de l'écriture, il n'y a pas de texte qui parle de leur religion. Cependant, dans les fouilles des premiers villages, de nombreuses statuettes féminines ont été retrouvées, et cela sur des sites archéologiques très différents. C'est cette répétition qui peut laisser penser qu'à ce stade, au moment de la naissance de l'agriculture, des cultes à des esprits féminins associés à la fertilité étaient répandus. L'accroissement continuel des richesses ouvrit aussi la voie aux inégalités sociales et aux premières classes sociales. Les échanges se développèrent et des structures plus complexes que le clan ou la tribu apparurent. Les premières cités, les premiers royaumes, les premiers empires. Les plus anciennes religions dont on a une trace écrite datent de cette époque. Elles sont toutes polythéistes. Un nombre de dieux difficile à estimer formait les panthéons de Mésopotamie, d'Égypte ou de Grèce. Le panthéon mésopotamien, par exemple, c'est-à-dire l'ensemble des dieux des premières sociétés urbaines mésopotamiennes, comprenait au moins 3000 divinités. Les divinités mélangeaient les attributs liés à la nature et les attributs liés à la société des hommes. Chez les Grecs, par exemple, le dieu du feu et des volcans était aussi le dieu des forgerons. Celui de la mer, également celui des marins. Et à la hiérarchie sociale qui s'était mise en place entre les hommes, correspondait une hiérarchie sociale chez les dieux. Le monde des dieux connaissait aussi les inégalités. La division en différentes cités ou royaumes avait aussi son reflet religieux. Chaque peuple avait une divinité protectrice. Parfois, un peuple avait comme protecteur un dieu obscur, inconnu, jusqu'à ce que ce peuple, créant par ses conquêtes un empire dominant toute une région, en fît la divinité dominante du panthéon. La divinité protectrice des Assyriens, Assur, résume à elle seule toute cette évolution religieuse. Assur fut d'abord l'esprit du Python rocheux sur laquelle était située la cité qui portait le même nom. Ensuite, quand la ville devint une cité-État, Assur fut le dirigeant fantastique de la ville. Les rois se présentaient comme ses exécutants. Enfin, lorsque cette cité-État renversa Babylone, sa rivale, et constitua son propre empire qui s'étendit sur toute la Mésopotamie, Assur finit sa carrière comme chef suprême de tous les dieux de Mésopotamie. Avec la civilisation, l'humanité avait vu surgir de nouvelles puissances, plus terrifiantes encore que les puissances naturelles. Les puissances sociales, comme les rois ou les empereurs. Et aux calamités de la nature s'étaient ajoutées les calamités sociales, l'oppression, l'autorité capricieuse des puissants, ou encore les guerres. Plus la société se complexifiait, et plus dans l'esprit des êtres humains, les craintes associées aux puissance sociale devint dominante, prédominante par rapport à celle associée aux puissances de la nature. La religion prit alors une forme abstraite d'un Dieu unique dont la volonté insondable gouvernait la nature et les hommes. Cette poussée vers le monothéisme se fit ressentir en divers endroits, notamment en Égypte et à partir du 7e siècle avant notre ère, en Grèce et dans l'Empire perse. Mais c'est surtout en Palestine, avec le judaïsme, que le monothéisme prit une forme simple sous laquelle il allait avoir du succès. La Bible juive garde la trace de cette évolution du polythéisme vers le monothéisme, c'est-à-dire de la croyance en plusieurs dieux à celle en un dieu unique. Selon les archéologues, le texte de la Bible fut mis par écrit entre le 5e et le 4e siècle avant notre ère, en rassemblant des mythes anciens transmis oralement et les conceptions religieuses du moment. Dans les parties correspondantes aux mythes anciens, le dieu des Juifs, Yahvé, est considéré comme la divinité protectrice, opposée aux divinités des autres peuples, comme Kémosh, protecteur des Moabites, ou Dagon, protecteur des Philistins. Si Yahvé y est présenté comme plus puissant que ses rivaux, la Bible ne nie jamais l'existence des autres dieux. Il y a même des parties explicitement polythéistes, comme ce passage des psaumes où il est écrit « Yahvé est roi, tous les dieux se prosternent devant lui ». Mais dans les parties de la Bible que les scientifiques estiment être l'expression des conceptions religieuses de ce 4e siècle avant notre ère, se trouvent les premières expressions du monothéisme. Là, le Dieu de la Bible est un Dieu unique. Et ce n'est plus un Dieu qu'il faut implorer, duquel on peut espérer obtenir des faveurs en échange de sacrifices. C'est un Dieu auquel on n'a pas d'autre choix que de se soumettre, comme devant la fatalité. Il y eut d'autres conceptions religieuses monothéistes de ce type. Mais du judaïsme allait naître une religion qui allait s'étendre sur tout le bassin méditerranéen, le christianisme. Le christianisme naquit au moins 4 siècles après la rédaction de la Bible juive. Et durant ces siècles, la société changea encore en profondeur. L'esclavage prit une ampleur qu'il n'avait jamais eue. Et par bien des aspects, la religion chrétienne en est le fruit. L'esclavage était très ancien, mais l'esclavagisme, c'est-à-dire l'esclavage développé à un point tel qu'il devenait le mode dominant de production des richesses, ne s'est mis en place qu'à partir de certaines cités grecques comme Athènes. Et par exemple, au début du 4e siècle avant notre ère, à Athènes, un contemporain grec pouvait recenser près de 400 000 esclaves pour 21 000 citoyens libres. La précision de ces chiffres est aujourd'hui discutée par les historiens, mais elle donne un ordre d'idée de l'importance prise par l'esclavage. Après les cités grecques, c'est Rome qui bâtit tout un empire sur l'esclavage. Rome se lança à la conquête de toute l'Italie, puis de tout le bassin méditerranéen, empilla les richesses et rafla au total des millions d'êtres humains pour en faire des esclaves. À son apogée, sous l'empereur Adrien, cet empire gigantesque s'étendait du nord de l'Angleterre actuelle jusqu'à la Palestine, en comprenant tout le pourtour du bassin méditerranéen. Les esclaves ne furent pas les seules victimes de ce grand empire, de ce système. La plupart des citoyens libres, dont le travail était concurrencé par le travail des esclaves, ne trouvaient plus de place dans l'économie. Ils étaient réduits à vivre de mendicité. Rien qu'à Rome, qui était une ville énorme à l'époque où le christianisme est apparu, on estime que ces prolétaires de l'Antiquité étaient au moins 300 000. Pour contenir ce peuple tombé dans la misère, les empereurs romains leur offraient du pain et les jeux du cirque. Mais le désespoir de tous ces désœuvrés réclamait bien autre chose. Ils réclamaient une solution à leur détresse. Alors la philosophie, qui avait connu un essor fulgurant en Grèce au début de la société esclavagiste, exprima le désarroi de cette société esclavagiste, cette société antique déclinante. Un courant philosophique, le courant stoïcien, avait évolué, au tout début de notre ère, vers une philosophie très religieuse et austère, prêchant la soumission de l'homme face au destin. Et au 1er siècle, à Alexandrie, qui était une autre puissante cité située au nord de l'Égypte, un philosophe juif, Philon d'Alexandrie, imprégné de culture grecque antique, mélangea la religion monothéiste de la Bible juive avec les conceptions des stoïciens qui prêchaient l'ascétisme et la soumission fataliste au destin. Les conceptions philosophiques et religieuses de Philon d'Alexandrie eurent une influence très importante sur les premiers théologiens de l'Église chrétienne, ceux qui élaborèrent la doctrine du christianisme au tout début des siècles de notre ère, des premiers siècles de notre ère. Et en ce sens, on peut dire que le christianisme est issu en partie de la philosophie grecque. Mais avant d'être une doctrine, et même un dogme, le christianisme fut d'abord un mouvement populaire. Et parti de petites sectes, il devint un mouvement de masse. Le terme même de christianisme est associé au nom de Jésus-Christ. Le mot « Christ » vient du grec, qui signifie « Messie ». Si Jésus était la référence incontestée de tous les courants chrétiens, et sera plus tard une référence pour les courants musulmans, il faut savoir que les traces historiques de son existence, autres que les évangiles bibliques, sont très minces et indirectes. Si l'année zéro de notre calendrier est plus ou moins censée correspondre à sa naissance, cette datation fut en fait introduite bien plus tard, plus de 500 ans après, par un moine qui n'avait que sa foi comme argument. Il y a également peu de renseignements sur les premières communautés chrétiennes. On sait à partir des textes religieux qu'au 1er siècle, à Jérusalem, les disciples de Jésus étaient des juifs. Il existait plusieurs tendances religieuses dans le judaïsme et les chrétiens en représentaient une. Cette tendance rassemblait surtout des petites gens qui vivaient en communauté. Le christianisme officiel attribue à Paul, au 1er siècle de notre ère, l'ouverture de la religion chrétienne aux non-juifs. La réalité est sans doute plus complexe, car il y avait plusieurs communautés rivales se réclamant de Jésus. Et ce n'est au plus tôt qu'au début du 2e siècle que le christianisme se sépara du judaïsme. Mais en tout cas, cette ouverture fut décisive, car c'est elle qui en fit une religion capable de se propager à l'ensemble des peuples de l'Empire romain. Alors, le christianisme se répandit chez les pauvres. Toutes les victimes de l'Empire romain, les paysans à qui on prenait la terre, les citoyens libres déchus de leurs droits, les prisonniers de guerre réduits en esclavage, tout cela firent le succès du christianisme. Fondamentalement, il n'y avait pas d'issue dans le cadre de cette société esclavagiste déclinante pour tous ces opprimés. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient mettre leur espoir d'un monde meilleur que dans une solution religieuse. À travers leur religion, ils exprimaient à la fois leur souffrance et leur aspiration à un monde meilleur, égalitaire. D'ailleurs, les premiers regroupements chrétiens étaient des organisations égalitaires, et même par certains aspects communistes. Pas communistes au sens moderne, au sens où nous l'entendons nous aujourd'hui, c'est-à-dire celui d'une organisation économique utilisant les ressources et les moyens de production dans l'intérêt général, mais communistes dans le sens du partage égalitaire des richesses. Voilà par exemple une description de la première communauté de Jérusalem, selon le texte biblique, l'histoire des apôtres. Nul ne considérait comme étant à lui ce qui lui appartenait. Toutes choses étaient communes. Ceux qui possédaient les terres ou les maisons, après les avoir vendues, en apportaient le produit et le déposaient aux pieds des apôtres, et on distribuait à chacun selon ses besoins. Le communisme de partage de ces premiers chrétiens ne pouvait être que celui de petites communautés vivant en marge de l'Empire. Le christianisme n'avait pas d'autre organisation sociale à proposer. Cette tendance égalitaire ne dura pas. Dès que le christianisme prit de l'ampleur, elle fut de plus en plus remise en cause. Une hiérarchie religieuse apparut et le partage égalitaire fut remplacé par la charité des riches chrétiens. Cela ne se fit pas sans opposition. Au 4e siècle de notre ère encore, un évêque, Basile de Césarée, pouvait dire par exemple, en s'adressant aux riches, « Misérable, comment voulez-vous vous justifier devant le juge céleste? Vous me dites quelle est notre faute lorsque nous retenons ce qui nous appartient? Moi, je vous demande, ce que vous appelez votre propriété, de qui l'aviez-vous reçue? Comment s'enrichissent les possédants, sinon en accaparant les choses qui appartiennent à tous? Si chacun ne prenait que selon ses stricts besoins, laissant le reste aux autres, il n'y aurait ni riches ni pauvres. Alors, malgré ce type de résistance, l'évolution était inévitable. Et d'une religion séditieuse et réprimée, le christianisme devint une religion acceptable par l'Empire romain. Ces tendances égalitaristes mises de côté, la religion chrétienne pouvait même contribuer à la cohésion de l'Empire. C'est l'empereur Constantin, au début du IVe siècle de notre ère, qui chercha le premier à utiliser l'Église chrétienne pour gouverner et souder l'Empire romain. Il commença par accorder la liberté de culte aux chrétiens. Puis il lança un programme massif de construction de bâtiments publics dans tout l'Empire, qui furent les premières basiliques chrétiennes. Enfin, il chercha à réduire les différentes tendances qui s'étaient multipliées au cours des trois premiers siècles du christianisme. Comme s'il était le chef de l'Église, il convoqua à Nicée, dans la Turquie actuelle, le premier concile chrétien. Cette réunion des représentants des églises chrétiennes de tout l'Empire fixa le dogme religieux. Alors, entre l'appareil de l'Église et le pouvoir, commençait une alliance qui allait durer des siècles. Vis-à-vis des croyants, le christianisme se transforma alors en une religion prêchant la soumission au pouvoir. Si le terme de communauté religieuse pouvait avoir un sens quand il s'agissait des communautés égalitaires, ce n'était plus tout le cas désormais. La notion de communauté des chrétiens ou de communauté des croyants servait en réalité à masquer les différences entre les classes sociales, pour prêcher aux pauvres la résignation et la soumission. Quand peu de temps après, au début du Ve siècle, l'Empire romain s'effondra dans sa partie occidentale, le christianisme lui survécut. Non seulement associé au pouvoir, dans la partie orientale, qui devint l'Empire byzantin, mais aussi dans les royaumes barbares que les invasions avaient créés. Dans ces royaumes, la religion chrétienne s'adapta au morcellement géographique. Le christianisme professait toujours la crainte en un Dieu unique, mais à côté, on vit apparaître, à une échelle locale, des cultes envers des saints protecteurs. C'était d'une certaine manière un retour au Dieu protecteur des cités antiques. La société faisait marche arrière et la religion s'adaptait. La troisième grande religion monothéiste, l'islam, apparut à peine 200 ans plus tard, au 7e siècle, à partir d'une région peu éloignée de celle où étaient nés le christianisme et le judaïsme, la péninsule arabe. Et les transformations de la société arabe bédouine qui précédèrent l'arrivée de l'islam rappellent par bien des aspects celles qui donnèrent naissance aux deux précédents monothéismes. La péninsule arabe était restée à l'écart de la colonisation romaine, entre autres pour des raisons géographiques. Les déserts qui la couvraient étaient un rempart naturel contre l'invasion. Deux grands empires, l'empire byzantin et l'empire perse, se partageaient la domination du monde. Les populations arabes, qui étaient situées au nord et à l'ouest de la péninsule arabique, donc au contact de ces deux empires, avaient cimbré leur influence et étaient devenues chrétiennes. À l'opposé, au sud de la péninsule arabe, vers le Yémen actuel, il y avait ce que les Grecs et les Romains appelaient l'Arabie heureuse, l'Arabie du Sud. Cette région entre la mer Rouge et l'océan Indien, au climat bien plus favorable, était un passage commercial maritime important. C'était la région la plus riche d'Arabie. Au début du VIe siècle, le roi de cette région s'était lui converti au judaïsme. Mais peu de temps après, c'est-à-dire quelques dizaines d'années avant l'arrivée de l'islam, l'Arabie du Sud fut victime des rivalités entre les deux grands empires. Elle fut dévastée une première fois par l'Éthiopie, alliée des Byzantins, puis une deuxième fois par l'Empire perse. Elle ne s'en remit pas, et la voie commerciale entre l'Inde et le bassin méditerranéen passa alors désormais à travers le désert. Le désert était le monde des tribus nomades. Les Bédouins utilisaient l'extrême robustesse du chameau pour survivre sous ce climat difficile. Il n'y avait pas du tout d'état centralisateur. Les tribus avaient leurs traditions ancestrales et avaient des conceptions religieuses situées entre l'animisme et le polythéisme. Ces peuples craignaient avant tout les esprits, les djinns. Mais l'arrivée des routes commerciales bouleversa cette situation. Les oasis et les villes de l'intérieur de la péninsule, comme la Mecque, prirent de l'importance et s'enrichirent. La vie des tribus bédouines fut complètement transformée. Les tribus citadines, qui dominaient la Mecque, devinrent de riches tribus commerçantes. Mais les liens d'entraide tribaux se désagrégeant, d'autres nomades furent ruinés. Et les villes concentrèrent aussi les désœuvrés et les esclaves, car l'esclavage aussi avait fait son apparition. Mahomet, le prophète de l'islam, était issu de la tribu des Coréchites qui dominait la Mecque. Mais il était d'une branche en marge. Vers l'âge de 40 ans, il eut ses révélations mystiques et commença à prêcher la foi en un Dieu unique, Allah. En arabe, Allah signifie le Dieu. Mais à l'époque, Allah était surtout la divinité suprême du panthéon polythéiste des tribus de la Mecque. Les dirigeants de la ville s'opposèrent au monothéisme prêché par Mahomet, qu'ils voyaient comme une religion concurrente. Et Mahomet, dans cette lutte, chercha des alliés du côté du judaïsme et du christianisme. Car avec l'élargissement des rapports commerciaux, les religions juives et chrétiennes s'étaient déjà répandues chez certaines tribus bédouines. Et d'ailleurs, à ses premiers adeptes, Mahomet demanda de prier en direction de Jérusalem, exactement comme les juifs et les chrétiens. Mais les notables de la Mecque réussirent, malgré tout, à expulser Mahomet et ses adeptes de leur ville. Et ceux-ci durent immigrer alors vers une autre cité, Yathrib. C'est à Yathrib que Mahomet constitua sa puissance politique et religieuse. Il mit en place une alliance contre les tribus de la Mecque avec des tribus locales, dont d'ailleurs trois étaient juives et une chrétienne. Et petit à petit, il réussit à fédérer toute l'hostilité des Bédouins appauvris à l'encontre des riches tribus de la Mecque. Dans cette société où les anciens liens d'entraide tribaux avaient été dissous, l'islam joua le rôle d'un ciment efficace. Et Yathrib, qui prit petit à petit le nom de Médine, qui signifie la ville, sous-entendu du prophète, Yathrib devint le centre de ralliement de l'opposition à la Mecque. Après plusieurs batailles et plusieurs sièges, en 632, les armées de Mahomet réussirent à imposer le ralliement des tribus de la Mecque à l'islam. Cette soumission marqua une étape décisive dans la constitution d'un État dont Mahomet, prophète de la nouvelle religion, était le chef. Si au départ, pour lutter contre le polythéisme, Mahomet avait cherché des alliés dans les tribus juives et chrétiennes, désormais, pour unifier solidement les tribus arabes, il ne pouvait plus tolérer de religions concurrentes, même monothéistes. Et lorsqu'il se rendit compte, par exemple, que les tribus juives de Médine ne se convertissaient pas à l'islam, il rompit avec elles et les écrasa. Cela se traduisit aussi par l'adoption d'un nouveau sanctuaire religieux vers lequel les musulmans devaient désormais prier, la Mecque. L'islam fut donc quasiment dès le départ la religion du pouvoir, à la fois ciment fédérateur, mais aussi idéologie dominante, ayant pour rôle de légitimer le nouveau pouvoir politique auprès des masses. Mahomet mourut juste après. Ses successeurs, ses califes en arabe, qui furent choisis à chaque fois parmi ses premiers adeptes, lancèrent les tribus bédouines unifiées vers des conquêtes extérieures, entre autres pour faire taire les dissensions qui surgirent juste après la mort de Mahomet. Les deux grands empires, romains et perses, s'étaient épuisés mutuellement dans une énorme guerre qui avait duré 20 ans. Et ils ne purent résister aux tribus arabes coalisées. En 30 ans, l'empire perse fut totalement conquis, ainsi que toutes les provinces orientales de l'empire byzantin. Ces succès, qui apportaient des richesses aux conquérants, assurèrent dans un premier temps la cohésion de ce nouvel empire religieux musulman. Mais très vite, des rivalités politiques surgirent, et dans cet état religieux, elles prirent évidemment une expression religieuse. Les deux tendances principales de l'islam qu'on connaît aujourd'hui ont d'ailleurs leur origine dans ces luttes de pouvoir. Les partisans du gendre de Mahomet, Ali, fondèrent ce qui allait devenir le chiisme. tandis que le grand-oncle de Mahomet, Moawiyah, qui avait derrière lui le clan dominant des Koréchites de la Mecque, représenta le sunnisme. Malgré les rivalités intestines, environ 100 ans après la mort de Mahomet, les conquêtes arabo-musulmanes s'étendaient très loin. L'Empire comprenait tout le sud du bassin méditerranéen, jusqu'au Maghreb et même jusqu'en Espagne, et s'étendait à l'est jusqu'au Pakistan et au nord jusqu'en Iran. C'est à travers ces conquêtes militaires que l'islam se répandit dans toutes ces régions. Peu avant l'an 1000, au bilan, l'islam au sud et le christianisme au nord se partageaient la domination religieuse de l'Europe et du bassin méditerranéen. Si ces religions avaient été capables d'exprimer la détresse et la colère des opprimés, très vite, elles étaient devenues un outil dans les mains du pouvoir, utile pour unifier des empires ou des royaumes et pour dominer moralement les opprimés. Mais la religion n'est qu'une idéologie. Et quand les fondements économiques de ces sociétés vacillèrent, les royaumes terrestres et les royaumes célestes associés se fissurèrent. À partir de l'an 1000, d'autres grandes transformations étaient en fermentation en Europe occidentale. Et ces bouleversements nous touchent encore plus, car la société capitaliste moderne dans laquelle nous vivons en est directement issue. De nouvelles tendances religieuses vont apparaître, qui seront le reflet de nouvelles classes sociales, à commencer par la bourgeoisie qui allait dominer le monde. Et c'est aussi dans ce contexte d'essor de la bourgeoisie, cette période d'accroissement accéléré des échanges, des techniques et des découvertes scientifiques que vont naître les idées athées et matérialistes. Dans la société féodale, aux environs de l'an 1000, le pouvoir des empereurs et des rois était devenu quasiment inexistant. Les évêques de l'Église étaient alors des nobles, quasiment comme les autres, régnant sur un fief. L'Église de Rome chapeautait tous les évêques, et était alors la plus grande puissance féodale d'Europe, possédant jusqu'à un tiers des terres. L'Église catholique symbolisait le féodalisme, non seulement parce qu'elle s'enrichissait de ses fiefs, mais aussi parce que, à une époque où il n'y avait plus de pouvoir central, elle était la seule puissance dominante de toute la chrétienté. C'est pour cela que toutes les forces sociales nouvelles qui se développèrent et créèrent un pouvoir centralisé cherchèrent, au bout d'un moment, à s'émanciper de la tutelle de l'Église catholique. Et cela s'exprima d'abord comme une contestation religieuse. Par ailleurs, la société sortait de la période sombre des premiers siècles du Moyen-Âge, où la connaissance avait reculé. Et c'était l'Église qui avait conservé dans ses abbayes le peu de culture qui restait en Occident. Les premiers pas du renouveau de la culture se firent donc directement sous la coupe de l'Église. C'était dans la langue de l'Église, le latin, que tout s'écrivait. Les premières universités, comme la Sorbonne à Paris, furent des organismes religieux. C'est donc pour cela aussi que les premières idées contestataires furent des idées de contestation religieuse, et que la lutte de classe aussi s'exprima d'abord à travers la religion. À partir du XIIe siècle, en Europe occidentale, les villes étaient redevenues des centres d'échanges importants. Une nouvelle classe sociale, la bourgeoisie, y jouait le rôle dominant. Les villes voulaient être le plus indépendantes possible du seigneur local, et dans leur lutte, elles trouvèrent un allié dans la personne du roi, qui se battait, lui, pour imposer son autorité au seigneur. Ville bourgeoise et monarchie s'allièrent souvent contre les féodaux. Dans un premier temps, les villes obtinrent leur indépendance, et même la possibilité de mettre sur pied leur milice communale bourgeoise. Dans certains endroits, cette indépendance dura même pendant des siècles. Des cités comme Gênes, Florence ou Venise en Italie devinrent très puissantes. Mais en général, l'allié royal se renforçant, il se transforma en nouveau maître. Et l'autonomie des communes disparut dans la consolidation des royaumes. Le roi n'était pas pour autant devenu un frein au développement de la bourgeoisie. La monarchie était l'élément d'ordre et de stabilité dans un Moyen-Âge où les féodaux se faisaient perpétuellement la guerre. Et la stabilité, c'était bon pour le commerce. Pour un riche bourgeois, avoir un État puissant derrière soi, c'était un atout dans la concurrence internationale. Alors, l'alliance de la bourgeoisie et de la monarchie se prolongea. Et l'Église catholique ne put résister longtemps à l'émergence de cette force combinée montante. Au début du XIVe siècle, le roi de France, Philippe le Bel, fut un des premiers à s'opposer à l'autorité du pape. Lorsque Philippe le Bel voulut imposer un nouvel impôt au clergé, le pape refusa. Alors, le roi de France interdit toute exportation en dehors du royaume, ce qui priva Rome d'une part importante de ses ressources. Le conflit dura plus d'un siècle, et c'est la monarchie française qui en sortit vainqueur. Elle en vint même à faire élire des papes à sa pote. Voilà. Des papes. Il y aura quand même un peu d'humour. Elle en vint même à faire élire des papes à sa botte. Et comme ceux-ci craignaient pour leur vie à Rome, ils préférèrent s'établir à Avignon. Pendant plusieurs décennies, les papes de l'Église catholique siégèrent à Avignon. Il y eut même une phase, appelée le Grand Schisme d'Occident, où il y eut jusqu'à 3 papes différents en même temps, chacun représentant les intérêts d'un ou plusieurs grands royaumes. À la fin du Moyen-Âge, vers 1500, la puissance politique de l'Église catholique était donc nettement affaiblie. L'autorité spirituelle de l'Église, elle aussi, avait été contestée, à plusieurs reprises, par des courants religieux que le catholicisme appelait les hérésies. Les hérésies, traquées par l'Église, se développaient et se cachaient dans les villes. Elles avaient quasiment toutes un caractère bourgeois. Les bourgeois des villes rejetaient la hiérarchie religieuse, coûteuse et inutile. Ils voulaient une église simple et à bon marché. L'église chrétienne primitive, qui était décrite dans les évangiles, sans clergé et démocratique, leur convenait infiniment plus que cette église des papes de Rome, parasitaire et richissime. De nombreuses hérésies, dans le midi de la France, en Angleterre, ou encore en Europe centrale, représentèrent cette tendance religieuse bourgeoise. Mais il y eut aussi des hérésies qui étaient l'expression des plus pauvres, du petit peuple des villes et des paysans. Ces hérésies intégraient généralement les revendications des hérésies bourgeoises, mais elles allaient plus loin. Elles ne voulaient pas seulement la démocratie de l'Église chrétienne primitive, elles voulaient aussi retrouver les conditions d'égalité du christianisme primitif. Ces hérésies jalonnèrent toute la fin du Moyen-Âge et touchèrent presque toute l'Europe. Alors, lorsque le moine allemand Luther lança la réforme protestante en 1517 en dénonçant le luxe de l'Église de Rome, il ouvrit une brèche dans laquelle s'engouffrèrent toutes les classes sociales et tous les intérêts opposés à l'Église catholique. D'autant plus que Luther eut rapidement le soutien des princes allemands, car la plupart voyaient d'un bon œil leur émancipation de la tutelle de Rome, qui leur coûtait très cher. Cette émancipation eut son symbole, avec la traduction de la Bible par Luther, du latin en allemand. Dans le sillage de Luther, un autre réformateur religieux, Calvin, d'origine française, installa sa doctrine à Genève. Calvin offrit à la bourgeoisie la religion qui lui correspondait le mieux. L'Église calviniste était démocratique et bon marché. Un conseil élu dirigeait le culte et il n'y avait pas de clergé. En plus, elle mettait en avant la prédestination. La prédestination disait que Dieu avait choisi par avance ceux parmi les hommes qui seraient graciés et ceux qui seraient damnés. C'était une façon très fataliste d'exprimer le dogme religieux. Et cela correspondait à ce que vivaient les bourgeois. Dans le monde commercial, le succès ou l'échec d'une affaire ne dépendait pas seulement de l'habileté de l'homme, mais semblait soumis à une fatalité incompréhensible. Comme si Dieu avait choisi par avance les élus et les déchus. Les premières républiques bourgeoises, comme la Suisse ou les Pays-Bas, furent des républiques calvinistes. Mais au-delà de Luther, de Calvin et de leurs proches adeptes, de nombreuses sectes foisonnèrent, exprimant, elles, les aspirations des plus pauvres. Les anabaptistes, par exemple. Les anabaptistes vantaient les communautés chrétiennes primitives, et leur égalitarisme. Leur nom d'anabaptiste venait du fait qu'ils dénonçaient le baptême dès la naissance, le baptême des enfants. Selon eux, il fallait consciemment choisir sa foi. Alors, ils rebaptisaient tous ceux qui adhéraient à leur secte. Et en grec, le préfixe « ana » signifie « de nouveau ». La réforme de Luther avait suscité beaucoup d'espoir parmi les plus pauvres. Or, rien n'avait changé pour eux. Ils restaient les soutiens de la société, faisant vivre de leur travail quasiment toutes les autres classes sociales. Alors, dans le sud-ouest de l'Allemagne, là où il y avait déjà une tradition de révolte et de conjuration paysanne contre les possédants, des prêcheurs radicaux, issus pour la plupart du courant anabaptiste, utilisèrent le langage de la Bible pour attiser la révolte. L'effervescence déboucha sur un soulèvement. À partir de l'été 1524 jusqu'au printemps 1525, 6 armées paysannes, rassemblant de 30 000 à 40 000 hommes au total, parcoururent les campagnes, détruisant les monastères, les abbayes et les châteaux des nobles. Dans plusieurs villes, des insurgés prirent le pouvoir, regroupant encore d'autres combattants. Les leaders de cette révolte étaient des petits artisans ou des aubergistes. Les révoltés avaient mis en avant leur programme sous la forme de 12 articles. Ils réclamaient le droit d'élire et de révoquer les pasteurs, la suppression de la petite dîme, qui était un impôt du clergé, l'utilisation de la grande dîme, un autre impôt du clergé, pour des buts d'utilité publique. Ils réclamaient l'abolition du servage, la restitution des terres communales accaparées par les nobles, et la suppression de l'arbitraire dans la justice et l'administration. Luther, qui avait involontairement contribué à engendrer cette révolte, appela les princes allemands à la répression. Voilà ce qu'il leur dit à propos des révoltés. Il faut les mettre en pièces, les étrangler, les égorger, en secret et publiquement, comme on abat des chiens enragés. C'est pourquoi, mes seigneurs, égorgez-les, abattez-les, étranglez-les. Libérez ici, sauvez-la. Si vous tombez dans la lutte, vous n'aurez jamais de mort plus sainte. En face de Luther, l'idéologue le plus radical de la révolte des paysans était Thomas Münzer. Influencé par les anabaptistes, il enseignait, sous des formes chrétiennes, une religion universelle si abstraite qu'elle frisait l'athéisme. Il rejetait la Bible comme révélation unique ou infaillible. La véritable révélation, selon Münzer, c'était la raison. Pour lui, le Saint-Esprit, c'était la raison. Son programme politique était égalitariste, presque communiste. Le royaume de Dieu était pour lui une société sans aucune propriété privée, sans pouvoir d'État placé au-dessus des membres de la société. Il voulait fonder une ligue pour réaliser ce programme, non seulement dans toute l'Allemagne, mais dans toute la chrétienté. Cette révolte des paysans et des petites classes des villes du sud-ouest de l'Allemagne, de Souabe, de Franconie, de Thuringe et même d'Alsace, fut écrasée. Les armées paysannes étaient plus nombreuses que les armées des princes, mais elles étaient divisées. La répression fut féroce. Lors de la dernière bataille décisive, l'armée des princes extermina 5 à 6 000 des 8 000 combattants paysans. Thomas Münzer fut torturé et décapité. La sauvagerie des princes allemands luthériens contre les paysans, plus ou moins anabaptistes, révoltés, était avant tout la répression d'un soulèvement populaire par les armées nobles. À partir de la réforme, toute l'Europe fut embrasée par les guerres de religion. Toutes les forces sociales qui s'étaient construites au cours du Moyen-Âge s'affrontèrent derrière des étendards religieux. Par exemple, les luttes entre nations pour le pillage du Nouveau Monde, l'Amérique qui venait d'être découverte, prirent une expression religieuse. Le roi d'Angleterre, Henri VIII, dans la foulée de la réforme luthérienne, avait rompu lui aussi avec le catholicisme. Il s'était proclamé chef suprême de l'Église et du clergé d'Angleterre, stoppant d'un coup le flux des richesses qui s'échappaient d'Angleterre vers Rome. Il avait fondé l'anglicanisme et la Bible fut traduite en anglais. À l'opposé, l'Espagne, qui profitait des richesses de la découverte de l'Amérique, était devenue une puissance dominante et avait mis la papauté sous sa coupe. Les papes étaient élus désormais avec le consentement du roi d'Espagne. Alors, la rivalité commerciale entre l'Espagne et l'Angleterre, prit un aspect religieux, le catholicisme contre l'anglicanisme. En France, l'affrontement entre les différents clans de la noblesse pour le pouvoir royal se fit lui aussi sous le masque de la religion. Et l'Espagne et l'Angleterre s'immiscèrent dans cette lutte, l'une soutenant le clan catholique, l'autre le clan protestant. Les guerres de religion étaient l'expression de luttes entre classes sociales différentes, entre puissances nationales différentes, ou encore, au sein de la noblesse, l'expression de rivalité pour le pouvoir royal. Mais sous ces luttes politiques de surface, dans les profondeurs des rapports économiques, la place de la bourgeoisie continuait de se renforcer. En Angleterre, au temps d'Henri VIII et de la mise en place de l'anglicanisme, la monarchie et la bourgeoisie étaient alliées, car elles se retrouvaient toutes les deux derrière les intérêts de la puissance commerciale anglaise. Mais la bourgeoisie s'enrichissant sans cesse, jouant un rôle de plus en plus primordial dans la vie économique, il était inévitable que la monarchie finisse par la gêner. En Angleterre, l'alliance entre la bourgeoisie et la monarchie se brisa et se transforma en un conflit ouvert dès 1640, près d'un siècle et demi avant la Révolution française. Et les courants religieux qui s'affrontèrent lors de la Révolution anglaise représentèrent les différentes classes sociales en présence. La monarchie, la vieille noblesse et le haut clergé étaient anglicans. Le camp républicain était puritain. Il y avait plusieurs tendances au puritanisme. La bourgeoisie commerçante, alliée à une partie des propriétaires terriens, se rangeait sous le drapeau du presbytérianisme, une tendance du calvinisme qui venait d'un pasteur écossais. Les paysans, les petits commerçants et artisans et les déclassés des villes, qui formèrent le parti le plus radical de la Révolution anglaise, étaient eux qualifiés d'indépendants ou de sectateurs, c'est-à-dire membres de sectes religieuses, car d'innombrables sectes religieuses avaient éclos. La plupart dérivaient de l'anabaptisme et vantaient l'égalitarisme du christianisme primitif. Et chose remarquable, cette profusion de sectes poussait à l'esprit de tolérance. Et cette aile radicale revendiquait la séparation de l'Église et de l'État, car chacun devait pouvoir adhérer à l'Église de son choix. À partir de 1642, la lutte entre le roi d'Angleterre Charles Ier et le Parlement anglais se transforma en guerre civile. Armée du roi et armée du Parlement s'affrontèrent. Et le cœur de la Révolution fut l'armée. Une armée révolutionnaire comme on n'en avait encore jamais vu. L'armée Nouveau Modèle, c'est son nom, fut constituée en regroupant des hommes sur des principes religieux, ceux du puritanisme. Son aile la plus radicale, la cavalerie, utilisait par exemple les cathédrales anglicanes comme écurie pour leurs chevaux. Mais cette armée était surtout farouchement anti-royaliste. Le dirigeant de la cavalerie, Olivier Cromwell, un membre de la toute petite noblesse, régulièrement réélu à la tête de la cavalerie par ses hommes, recrutait avec des discours de ce genre. S'il arrivait au roi de se trouver dans les rangs de l'ennemi, je déchargerai mon pistolet sur lui comme sur n'importe qui. Et si votre conscience vous empêche d'en faire autant, je vous conseille de ne pas vous enrôler sous mes ordres. Cette armée révolutionnaire, une fois constituée, ne mit pas longtemps à venir à bout des armées royalistes. Et après la victoire, cette armée révolutionnaire ne se démobilisa pas. Elle devint au contraire un creuset d'idées radicales et de politisation accélérée. Le Parlement bourgeois était même effrayé par cette force militaire populaire. En 1647, il tenta d'en démobiliser une partie et d'envoyer l'autre conquérir l'Irlande. Cette décision mit le feu aux poudres. Les troupes élurent des délégués, appelés agitateurs, et forcèrent les officiers à accepter la constitution d'un conseil général de l'armée élu. Bien plus tard, au XXe siècle, un historien, journaliste, démocrate anglais, Henry Brailsford, compara cette effervescence de la Révolution anglaise à celle de la Révolution russe. Je le cite. « Rien de comparable à cette explosion de démocratie spontanée n'avait jamais existé dans aucune armée anglaise ou continentale avant cette année 1647. Rien de semblable ne devait plus se reproduire avant les conseils de soldats et d'ouvriers dans la Russie de 1917. En parallèle de cette politisation de l'armée, dans la société civile, s'était développé, surtout à Londres, un parti populaire, les Niveleurs. Le terme venait de leurs détracteurs, qui leur reprochaient de vouloir imposer l'égalité sociale, niveler la société. Les Niveleurs étaient le parti républicain radical, implanté dans les couches travailleuses londoniennes et chez les soldats du rang de l'armée Nouveau Modèle. Leur manifeste, l'accord du peuple, réclamait la séparation de l'Église et de l'État, ainsi que la tolérance religieuse, l'abolition de la dîme, la protection de la petite propriété, la République et le suffrage universel. Cromwell, qui devint le dirigeant de la Révolution, s'appuya d'abord sur les Niveleurs et le peuple pour se débarrasser des hésitants qui se seraient contentés d'un compromis avec le roi. Mais ensuite, il les réprima, implacablement, afin de décapiter toute contestation populaire. Cromwell dirigea la courte République anglaise jusqu'à sa mort, et celle-ci ne lui survécut pas. La réaction ramena la monarchie. Après plusieurs décennies d'oscillation, la bourgeoisie et l'aristocratie trouvèrent un compromis. La monarchie était rétablie, mais la bourgeoisie avait les mains libres pour toutes ses affaires commerciales, industrielles et financières. Avec la Restauration, revint aussi l'Église anglicane. Les multiples sectes religieuses, un temps réprimées, furent au bout du compte tolérées. Le reflux de la Révolution les rendait moins dangereuses pour le pouvoir. D'ailleurs, de nouvelles sectes très mystiques étaient apparues, comme le mouvement pacifiste des Quakers. La plupart des leaders de ces nouvelles sectes avaient été des révolutionnaires radicaux. Mais si au cœur de la Révolution, le langage de la Bible enrobait leurs discours révoltés, l'échec de la Révolution et le retour de la monarchie les avaient démoralisés et poussés vers le mysticisme et vers l'Amérique, car beaucoup émigrèrent en Amérique. La réforme protestante en Allemagne et la Révolution anglaise de 1640 furent deux grandes batailles qui pourraient passer pour des luttes religieuses, mais qui étaient en fait l'expression de la lutte des classes. Tout se fit sous le masque de la religion, car nulle part dans la société n'existait encore de pensée émancipée de la religion. Mais dans cette société en constant bouleversement, qui venait de découvrir de nouveaux continents et de nouveaux océans, et en parallèle de tous les événements que nous venons d'aborder, la vision du monde progressait à pas de géant. Et dans cette ambiance surchauffée, les conceptions athées et matérialistes étaient en train de germer. D'abord, la science avait repris son essor, en repartant des théories de l'Antiquité grecque, transmises et enrichies par le monde arabe. Elle pouvait s'appuyer désormais sur l'expérience de techniques nouvelles, dont les découvertes s'étaient échelonnées tout au long des derniers siècles du Moyen-Âge, comme l'utilisation des moulins à eau, puis à vent, dès le XIe siècle, et leur constant perfectionnement, la découverte de la croisée d'ogives au XIIe siècle, qui avait permis de construire plus haut, sans craindre l'effondrement, la découverte du gouvernail, à partir du XIIe siècle aussi, auquel l'essor de la marine et du commerce était lié. Et puis il faut au moins aussi citer l'imprimerie, découverte par l'allemand Gutenberg vers 1440, et qui révolutionna la propagation des idées et de la connaissance. Toutes ces techniques nouvelles aidèrent au renouveau des idées scientifiques, mais surtout, elles contribuèrent à accroître les forces productives et donc la richesse de la société. Cela eut pour conséquence indirecte l'émergence à l'échelle européenne d'une couche d'intellectuels qui commençait à réfléchir en marge de l'Église. Ce fut essentiel, car dans ce monde en pleine évolution, l'Église catholique était restée figée sur quelques conceptions issues de l'Antiquité. Sa représentation du monde, que le dogme religieux refusait absolument de remettre en cause, considérait que la Terre était immobile au centre de l'univers, que cet univers se divisait en un monde sublunaire, sous la Lune, où tout était périssable et subissait les effets du temps, et un monde supralunaire, parfait, immuable, éternel, celui de Dieu. D'une manière générale, l'Église rejetait la moindre idée fondée sur l'observation ou l'expérience, car selon elle, la vérité était dans ses livres sacrés. Alors, quand en 1543, un moine polonais, Nicolas Copernic, émit l'idée que c'était le soleil qu'il fallait mettre au centre et les planètes autour, cette simple hypothèse fut intolérable aux yeux de l'Église. Pour confirmer solidement l'idée de Copernic, qui est pour nous aujourd'hui une évidence, il fallut plus de 100 ans et la contribution de découvreurs de toute l'Europe, du Polonais Copernic, en passant par le Danois Tycho Brahe, l'Allemand Kepler, l'Italien Galilée, jusqu'à l'Anglais Newton. Les efforts furent considérables, car pour prouver l'idée de Copernic, il fallait remettre en cause tout l'édifice scientifique hérité de l'Antiquité. Et en plus de cela, il fallait aussi lutter contre l'Église catholique. Giordano Bruno, un partisan du système de Copernic, défendait l'idée, l'anticipation géniale, que les étoiles étaient des soleils lointains et que l'univers était infini. Pour avoir défendu cela, Giordano Bruno fut condamné par l'Église et brûlé vif à Rome en 1600. 33 ans après, Galilée, fusionnant les conclusions de dizaines d'années de découvertes, mit en place les bases de la science physique moderne, en prouvant que la théorie de Copernic était juste et que celle des mondes sublunaires et supralunaires était fausse. Alors qu'historiquement, ce fut une étape majeure du progrès de la science, l'Église obligea Galilée à abjurer sa théorie. L'Église tenta par la terreur morale et physique de maintenir son emprise idéologique sur la société, mais elle ne pouvait pas retenir le flot montant du progrès. Comme disait Galilée, la science ne pouvait que s'étendre. D'autant plus que le commerce et la production manufacturière avaient besoin de sciences de la nature, d'explications des phénomènes et d'une véritable compréhension du monde. Cet essor des idées scientifiques en influença un autre, celui des idées philosophiques. Les philosophes de l'époque cherchaient à comprendre quel rapport existait entre la matière et la pensée, ce que pouvait être l'âme, et s'il était possible de prouver ou non l'existence de Dieu. Exactement comme pour les idées de Copernic, la conception matérialiste du monde fut le fruit de contributions de penseurs de tous les pays et de leurs débats acharnés. Au-delà de leurs divergences, tous avaient une haine de l'obscurantisme religieux et la volonté farouche de comprendre. Un philosophe hollandais, Spinoza, qui fut excommunié de la communauté religieuse juive d'Amsterdam à l'âge de 24 ans, parce qu'il défendait les idées rationalistes, on attribue une phrase qui symbolise cet état d'esprit. « Il ne faut ni rire, ni pleurer, mais comprendre. » Les idées matérialistes... Les idées matérialistes plongent leurs racines dans deux courants philosophiques du XVIIe siècle, qui évoluèrent en parallèle. Le premier courant était français. Il avait comme représentant le plus connu le scientifique Descartes. Partant de l'étude des propriétés de la matière, Descartes avançait qu'on devait pouvoir comprendre le monde qui nous entoure uniquement à partir de ses propriétés. Et cela jusqu'aux êtres vivants, comme les animaux, qu'il voyait comme des machines complexes dont il fallait mettre à jour le mécanisme. Il résumait cela à travers la notion d'animal-machine. C'était une vision audacieuse des propriétés de la matière, car les connaissances de l'époque étaient plus que sommaires et ne permettaient pas de confirmer ses intuitions. Descartes mettait cependant l'être humain à part. Il ne concevait pas que la pensée humaine puisse être, elle aussi, le produit de la matière. Et il continuait d'associer cette pensée à une âme éternelle. Le deuxième courant était anglais. Si le courant français, lié à Descartes, avait attaqué le problème des liens entre la matière et la pensée par en bas, c'est-à-dire à partir des propriétés de la matière, le courant anglais, lui, l'abordait par en haut, en essayant de comprendre comment se construisait la pensée, d'où venaient les idées. Au XVIIe siècle, l'Angleterre était le pays de la Révolution, où les idées nouvelles s'étaient propagées comme une traînée de poudre. Les philosophes anglais avaient vu que les idées pouvaient changer du tout au tout en quelques années. l'Angleterre était aussi le pays où les sciences expérimentales s'étaient le plus développées, le pays de la première académie scientifique, ce premier parlement de savants. Or, les sciences expérimentales montraient comment les idées se formaient à partir des observations et des expériences. Le courant matérialiste anglais établit alors que les pensées venaient en définitive uniquement de nos sens, comme la vue, l'ouïe, le toucher, et qu'elles ne pouvaient être que le reflet du monde réel. Un de ses représentants les plus marquants, John Locke, partant de l'idée que toute pensée ne pouvait être que le fruit de l'expérience, décrivit l'esprit humain comme une ardoise vierge qui se remplissait au contact du monde. Il en concluait qu'il n'existait pas dans les esprits des hommes d'idées innées, d'idées a priori, que par exemple les enfants ne naissaient pas avec des idées toutes faites, pas même celles de Dieu. À l'aube du XVIIIe siècle, le fameux siècle des Lumières, même si les deux courants français et anglais avaient mis en place les fondements d'une conception matérialiste, aucun penseur n'osait encore affirmer qu'il n'existait ni Dieu ni âme. Mais l'idée était dans l'air et elle ne devait pas tarder à être formulée. Aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est un petit curé de campagne des Ardennes, Jean Mélier, qui exprima son athéisme le premier. À l'époque, dans les couches pauvres de la paysannerie, devenir curé était souvent la seule voie ouverte à ceux qui avaient eu la chance d'avoir un peu d'éducation. À sa mort, il laissa un ouvrage imposant, connu sous le nom de Testament de Jean Mélier, que Voltaire fit publier en en tronquant certains passages parce qu'il les trouvait trop radicaux. On pouvait y lire: pesez bien les raisons qu'il y a de croire ou de ne pas croire, ce que votre religion vous enseigne et vous oblige si absolument de croire. Je m'assure que si vous suivez bien les lumières naturelles de votre esprit, vous verrez au moins aussi bien et aussi certainement que moi que toutes les religions du monde ne sont que des inventions humaines et que tout ce que votre religion vous enseigne et vous oblige de croire comme surnaturel et divin n'est dans le fond qu'erreur, que mensonge, qu'illusion et imposture. Jean Mélier était un révolté. C'est lui, par exemple, qui avait lancé la formule « Il serait juste que les grands de la terre et que tous les nobles fussent pendus et étranglés avec les boyaux des prêtres. » Mais son athéisme n'était pas que le fruit de la colère. Il était aussi la conclusion de ses lectures et de ses réflexions. Il était isolé. Et ses idées ne furent connues, grâce à Voltaire, que partiellement et plus de 30 ans après sa mort. Mais il fut un véritable précurseur des idées matérialistes modernes. C'est avec un médecin des armées du roi de France, Lamettry, que les courants matérialistes anglais et français firent vraiment leur jonction, donnant naissance à la première vision matérialiste conséquente des liens entre la matière et la pensée. Partant du concept d'animal-machine de Descartes, Lamettry eut l'audace de l'étendre à l'homme et de parler d'homme-machine. Pour la première fois, la pensée humaine était considérée comme le fruit de la matière. Ni Dieu ni l'âme n'avaient plus aucune justification. Lamettry, médecin de profession, disait « Si tout s'explique par ce que l'anatomie et la physiologie me découvrent dans la moelle, qu'ai-je besoin de forger un être idéal ?» Ses ouvrages furent condamnés et brûlés par le pouvoir. Il dut quitter son emploi de médecin des armées et s'exiler aux Pays-Bas, puis en Allemagne. Mais jamais il ne renia ses idées. Dans sa foulée, les penseurs matérialistes se multiplièrent et leurs idées communes forgèrent un matérialisme dont nous avons hérité. Selon ces penseurs, l'univers n'est fait que de matière. Cette matière, dont la science n'a jamais fini d'en comprendre les propriétés, s'organise sous des formes innombrables, de la roche inerte aux êtres vivants, jusqu'au cerveau humain, capable d'être le siège de la pensée. Et les pensées des hommes, elles, même les plus abstraites, proviennent de leur sens. Elles sont le reflet du monde extérieur dans le cerveau humain. Cette conception de la nature n'était pas une conception figée. Elle devait s'enrichir constamment de chaque nouvelle découverte scientifique. Et c'est ce qu'elle continue de faire plus de 2 siècles et demi après. Le symbole du siècle des Lumières fut un ouvrage collectif exceptionnel, l'Encyclopédie. Cette œuvre monumentale, interdite à plusieurs reprises par le pouvoir royal et l'Église, à laquelle contribuèrent des scientifiques et des penseurs de toute nationalité, donna au matérialisme son aspect universel. Tout fut décortiqué et mis à l'épreuve de la raison. Toutes les questions, celles de la nature, celles de la religion et celles de la société, furent abordées. Les auteurs de l'Encyclopédie n'étaient pas tous athées, loin de là. Affirmer son matérialisme et son athéisme pouvait entraîner l'emprisonnement. Et par exemple, Diderot, le père de l'Encyclopédie, fut lui-même emprisonné 3 mois. Cela explique en partie pourquoi la plupart des philosophes préféraient s'affirmer déistes, c'est-à-dire qu'ils rejetaient les dogmes de l'Église, mais continuaient formellement d'admettre l'existence d'un Dieu abstrait. Marx dira plus tard que le déisme était un moyen commode et paresseux pour se débarrasser de la religion. Mais pour certains philosophes, le déisme cachait autre chose. Il cachait plus qu'un souci de se protéger de la répression. Voltaire, par exemple, revendiquait son déisme et dénonçait l'athéisme. Il savait être un polémiste vigoureux contre l'Église et contre les superstitions religieuses en général, capable d'écrire, par exemple, dans une lettre personnelle au roi de Prusse, qui était un de ses protecteurs, « Tant qu'il y aura des fripons et des imbéciles, il y aura des religions. La nôtre est sans contredit la plus ridicule, la plus absurde et la plus sanguinaire qui ait jamais infecté le monde. » Mais le même Voltaire, s'installant à la frontière franco-suisse sur un domaine qu'il venait d'acheter, fit construire une église pour les paysans, avec marqué dessus en latin « Érigé pour Dieu par Voltaire ». Pour lui, l'athéisme et le déisme étaient valables pour les grands du monde, mais pas pour les paysans. Mais au-delà des forces et des faiblesses de chacun de ces philosophes, l'aboutissement du mouvement général était qu'en cette fin du XVIIIe siècle, juste avant que la Révolution française n'éclate, l'humanité avait enfin une conception irreligieuse du monde. Parallèlement à l'établissement des conceptions matérialistes sur la nature, les matérialistes les plus radicaux s'étaient attaqués aux problèmes des sociétés. Ils se posèrent la question de savoir ce qui faisait et défaisait les régimes et les pouvoirs, quelle explication on pouvait trouver à l'histoire de l'humanité. Ils savaient déjà que toute l'histoire n'était le résultat que de l'action des hommes eux-mêmes. Ils savaient qu'en même temps, les hommes étaient le produit de leur milieu, qu'il n'y avait pas d'idée innée, comme l'avait dit John Locke. Et comme ils pensaient que c'était l'opinion qui gouvernait le monde, leur devoir de philosophe était d'éclairer les peuples. D'Holbach, un des matérialistes les plus conséquents avant la Révolution française, s'exprimait ainsi. L'histoire nous prouve qu'en matière de gouvernement, les nations furent de tout temps le jouet de leur ignorance, de leur imprudence, de leur crédulité, de leur terreur panique, et surtout des passions de ceux qui surprennent de l'ascendant sur la multitude. Semblables à des malades qui s'agitent sans cesse dans leur lit, sans y trouver de position convenable, les peuples ont souvent changé la forme de leur gouvernement, mais ils n'ont jamais eu ni le pouvoir, ni la capacité de réformer le fond, de remonter à la vraie source de leurs maux. Ils se virent sans cesse ballottés par des passions aveugles. Les matérialistes avaient la ferme conviction que débarrassés de l'obscurantisme, débarrassés de la religion et armés de la raison, il était possible de rendre la société meilleure. Les philosophes des Lumières étaient loin d'être tous des républicains affichés. La plupart préféraient de beaucoup une monarchie constitutionnelle, où les pouvoirs du roi seraient limités, ou encore mieux, une monarchie dirigée par un souverain éclairé ou philosophe, et peu réclamaient une république. Mais leur dénonciation de l'obscurantisme, alors que l'Église et la monarchie étaient indissolublement liées, en faisaient tous des opposants de fait à la royauté. Évidemment, ils étaient très loin de s'imaginer que quelques années après, le peuple allait s'emparer de leurs idées et en faire des forces réelles et abattre la monarchie.